chercher une confirmation intellectuelle de tel ou tel point de vue. Il y a des cercles pieux qui réclament fréquemment des études bibliques et où l'on connaît à merveille la collection des passages qu'on peut citer à l'appui de telle thèse dogmatique ou ecclésiastique. Là même, la lecture de la Bible est trop souvent en souffrance. D'autres ne lisent la Bible que pour appuyer leur manière de voir. Et s'ils n'arrivent pas à ce résultat, qu'ils cessent de la lire. Quelqu'un a eu raison de dire qu'il ne fallait pas lire la Bible à la clarté bleuâtre du presbytérianisme, ni à la clarté rougeâtre du méthodisme, ni aux rayons violacés de l'épiscopat, mais à la lumière de l'Esprit de Dieu. Bacon a dit que comme le vin qui provient du raisin, quand on commence à le presser, est plus doux et meilleur que celui que l'on extrait du marc, lequel prend l'amertume de la peau et des pépins. De même, les doctrines se présentent à l'âme plus pures et plus nourrissantes quand on médite l'écriture avec simplicité d'esprit que quand on la tord en controverse et en lieu commun. Ces observations aboutissent naturellement, mesdames et messieurs, à une lecture pratique, une leçon pratique que nous formulons ainsi. Se refuser d'accorder une préférence exclusive aux passages qui nous conviennent et que nous sommes tentés de lire en négligeant les autres. Il est parfaitement légitime d'aller chercher à l'heure du besoin le chapitre, la parole, que nous savons devoir y répondre. Mais il est illégitime, il est dangereux de s'en tenir toujours aux passages préférés qui correspondent à nos goûts et à notre tournure d'esprit. Tel lecteur, au tempérament contemplatif, à l'esprit recueilli, se sentira surtout attiré vers les écrits de saint Jean. Ils les lisent et les relisent, mais qu'ils se gardent bien de négliger les autres pages du Nouveau Testament, celles qui lui parlent des devoirs et des détails de la piété. Un autre, au contraire, fera sa lecture habituelle du Sermon sur la montagne, de l'Épître de saint Jacques, du Livre des Proverbes, et ne voudra plus rien savoir au-delà de la sagesse pratique qui se manifeste dans la fidélité à la tâche de tous les jours. Que cette disposition, d'ailleurs excellente, n'aille pas jusqu'à le détourner de la lecture assidue des épîtres de Paul, de peur que peu à peu, la propre justice ne se glisse dans son cœur ou que l'horizon de sa piété ne se rétrécisse. On peut appliquer à tous les livres de la Bible, qui est en un sens un corps, ce que Paul dit des membres du corps. Ceux qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Les portions de l'écriture, en effet, que nous lisons le moins volontiers sont souvent celles qui nous seraient les plus nécessaires, celles qui nous font le mieux connaître notre cœur, celles qui vont à l'encontre de nos habitudes, qui heurtent nos préjugés pour les redresser, qui censurent le mal pour lequel nous sommes indulgents, celles, en un mot, qui nous renvoient jugés et humiliés aux pieds de notre Dieu. Tout cela, mesdames et messieurs, nous avertit que pour lire l'Évangile avec profit spirituel, il faut le lire en se mettant résolument, non sur le plan général, universel, mais sur le plan individuel, personnel. Il ne faut pas lire l'Évangile comme un message s'adressant à tout le monde, mais comme un message s'adressant à soi personnellement. Il faut faire l'application constante à soi-même des menaces et des promesses qu'on y rencontre. Il faut que chaque verset dont nous avons saisi la portée devienne pour nous le point de départ d'un progrès de la vie religieuse et morale. Avons-nous lu le récit des fautes commises par des hommes du passé? Demandons-nous s'il n'y a pas en nous les germes des vices qui les ont perdus. Lisons-nous au contraire le récit d'une...